Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On but de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Hello, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de ce Canu Info du jeudi, avec l'équipe du jeudi, il s'agit donc de Laurent.
Bonsoir Delphine.
Merci, vas-tu bien?
Oui.
Nous allons être ensemble jusqu'à 20h, à 20h vous aurez la joie de retrouver l'équipe de la Petite Cuillère, donc l'émission pour les prisonniers et prisonnières et contre les prisons. Nous, on va vous parler de la réforme du lycée pro ce soir. Nous irons du côté du Royaume-Uni. Nous parlerons culture et de jazz, en particulier, puis de pognon un petit peu. Nous parlerons de capitalisme, de chimie et des lobbies contre la santé. On en profitera pour parler après fausse science. On parlera de Charles III. Nous irons du côté de Calais, on parlera d'entreprises multinationales, voilà, pour ce Canu Info. Juste pour dire, hein, pour démarrer cette émission, que nous avons appris qu'aujourd'hui, deux membres de Génération Identitaire ont été condamnés à des peines de sursis pour les 21 autres, mais pour les deux membres de Génération Identitaire dont je veux parler, la peine, elle est d'un an de prison et six mois de prison ferme. Je vous rappelle que ça s'était passé en 2018. Il y avait un commando qui était rentré dans les locaux de SOS Méditerranée pour une attaque raciste contre les migrants et les migrantes. Voilà, une condamnation dont j'avais juste envie de parler ce soir. Et puis on va parler de la réforme du lycée pro. Donc vous avez vu qu'il y avait, vous y étiez peut-être, hein, des rassemblements ou des manifestations en France mardi. On nous a dit dans les médias que tout s'était bien passé. Mais les images montrent une autre histoire, quand même, il faut le dire. Les médias nous disent que ça s'est bien passé parce que finalement, il y a eu peu d'interpellations. Peu, c'est pour les médias évidemment, hein, pas pour les autres, parce qu'il y en a eu quand même. Mais en fait, quand on regarde les images, on a encore une fois, et en particulier à Paris, des bleus qui attaquent des manifestants et des manifestantes.
Ouais, à Paris, hein, parce qu'ailleurs, a priori, ça s'est pas passé.
Ouais, il y a eu d'autres villes, hein, quand même, où ça s'est un peu passé. Ouais. Mais c'est vrai que Paris, les images sont assez flagrantes, comme d'habitude, de la démonstration de ce qui se passe, hein, en vrai en manifestation.
Comme quoi le changement de préfet ne change pas la doctrine.
Non, et puis on voit, alors, ce qui est intéressant, c'est que, peut-être qu'on se souvient, il y a des décennies, on avait la... Alors, il y a eu, évidemment, les baqueux, hein, ceux qui courent après les manifestants, et puis on avait les marches, vous voyez, ils étaient en groupe, ils tapent sur leurs boucliers, casqués, avec la matraque, et puis maintenant, on les voit partir tout seuls à l'attaque pour aller choper un manifestant ou une manifestante. On ne sait pas toujours bien pourquoi, parce qu'on nous dit, oui, mais en fait, tu sais, tu n'as pas le début de la vidéo. Bah si, hein, voilà, le début de la vidéo. Et on a donc des gens qui sont à terre, qui lèvent les bras ou alors qui se mettent en boule et qui se font pourtant fracasser le corps, la tête. Ces images, elles continuent manifestation après manifestation et on se rend bien compte que les médias, une fois que les violences policières sont sorties du débat, n'en ont plus rien à faire, il faut quand même le dire. Alors évidemment, on a quand même quelques médias plus ou moins alternatifs qui quand même rapportent ces manifestations et ces violences policières dans ces manifestations. Mais en vrai, tout le monde s'en fiche, il faut quand même le dire. Hein, moi, quand j'ai entendu tout s'est bien passé, ben non, tout s'est pas bien passé. On a vu hein, aussi, ça c'est plus drôle évidemment, hein, c'est garde mobile ou CRS, enfin en tout cas c'est pour vous donner la tenue, vouloir foncer sur un service d'ordre de la CGT, bon bah c'est toujours une assez mauvaise idée, il faut le dire, parce que le service d'ordre il a pas bougé et donc du coup on a eu un recul de la bleusaille assez rapide. Mais par contre ce qui est vraiment triste, c'est encore une fois de voir ces gens qui sont chopés et qui une fois à terre se font tabasser complètement. On a vu des coups partir sur des gens qui ont les bras en l'air, debout, et on voit la matraque monter, descendre, c'est-à-dire que pourquoi des coups ? Il se passe rien, les gens ne sont pas armés, ne sont pas en train de jeter quelque chose, c'est quand même assez hallucinant que ces violences policières continuent contre les manifestants et les manifestantes. Bien évidemment, les violences policières, elles sont aussi contre les gens dans la rue d'une manière générale, mais en manifestation, en tout cas, ça ne cesse pas, malgré les critiques.
Donc, mardi dernier, comme prévu depuis un peu plus d'un mois, une mobilisation a été faite, a été organisée dans les lycées professionnels afin de contrer les attaques que le lycée pro subit de la part du gouvernement depuis plusieurs années, avec une montée en puissance pour cette année en vue de la rentrée de 2023. Alors ce jour-là, vous avez compris, et Delphine en a parlé, les bureaucraties syndicales avaient décidé de faire aussi une journée interpro de mobilisation qui a grandement, malheureusement, minimisé l'impact de la mobilisation des lycées pro, mais qui ne l'a pas totalement fait disparaître. C'est plutôt la bonne nouvelle, même si la moitié ou les trois quarts des médias ont avant tout parlé des manifs pour gagner plus de thunes et pour sauver l'éducation, beaucoup moins. Mais ça, c'était un choix aussi éditorial de la part de certains médias. Voilà. Alors, faut savoir quand même que la mobilisation interpro a touché quelques micro-pourcents de travailleurs et de travailleuses. Et les lycées pro, beaucoup plus. La moyenne est à peu près 30% des enseignants qui étaient en grève dans les lycées pro. Dans certains lycées, c'est monté jusqu'à 70%. Et voilà. Et l'impact médiatique a été très faible. Merci les médias et merci les bureaucraties syndicales d'avoir pollué cette mobilisation. Alors, l'éducation nationale, elle, de son côté, a fait un truc pour casser le mouvement. Elle a pris l'ensemble des salariés de l'éducation nationale et elle a calculé le pourcentage de grévistes. Alors forcément, on arrive à 6%, ce qui est déjà énorme par rapport à la mobilisation qu'a pu essayer de faire le mouvement interpro. Hein, c'est bien plus que ça. Sauf que, en fait, prendre l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, c'est super malhonnête, puisque l'appel était essentiellement centré sur le lycée pro. Il y avait quelques personnels enseignants qui n'étaient pas en lycée pro, qui étaient en grève, en solidarité, et qui étaient à la manif. Mais en fait, voilà, le gouvernement a tout fait pour minimiser la mobilisation. Ils ont été aidés, du coup, par les médias et par cette journée interpro qui nous a un peu invisibilisé, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qui coince dans cette réforme ? Alors, l'impression qu'on a en fait de l'extérieur et depuis quelques années, depuis Macron, mais on avait des doutes avant, sous Sarkozy c'était déjà un peu le cas, on a l'impression que le gouvernement cherche à se débarrasser de la partie professionnelle, de la partie formation professionnelle. On se souvient que la réforme précédente, celle de Blanquer en 2018, donc c'est assez récent, hein, avait supprimé entre 300 et 400 heures de cours en bac pro et 200 en CAP. Alors pour mémoire, hein, autrefois le bac pro, c'était 4 ans d'études. La réforme précédente l'a fait passer à 3 ans d'études. Donc les élèves ont perdu 25% de temps scolaire, c'est quand même beaucoup. Aujourd'hui, l'éducation nationale vise à mettre le bac pro en 2 ans. C'est un truc de fou quand même. On aurait 50% de temps d'études par rapport à la formation originale d'il y a quelques années. Alors comment ils vont faire ça? La première étape qui est déjà validée, hein, c'est passé au BO, le bulletin officiel de l'éducation nationale, c'est l'augmentation des périodes de stage de 50% en classe de terminale. Grosso modo, les élèves de terminale vont passer de moins en moins de temps à l'école et de plus en plus de temps en entreprise. Quand on connaît l'absence de contenu pédagogique mis en œuvre lors de beaucoup de stages en entreprise, cela est forcément très inquiétant. Car les situations en entreprise, hein, sont très inégales, les stagiaires sont souvent mal encadrés, voire peu encadrés. Parfois, c'est juste des larbins. Ils ont rarement un vrai tuteur qui a des et qui met en œuvre une vraie pédagogie, puisque c'est ça le but, c'est que l'entreprise forme. Et en fait, l'entreprise ne forme pas. D'ailleurs, hein, dans l'histoire de ces augmentations de durée de stage, le patronat avait déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas très chauds. Mais le patronat n'a pas décidé d'aller plus loin que dire on n'est pas chaud. C'est dommage parce que ils auraient pu avoir peut-être plus de poids que les pauvres personnels enseignants. Alors pour le personnel, l'impact n'est pas encore très connu, mais on sent venir l'annualisation du temps de travail, parce que imaginez si un jour on arrive à la moitié du temps de formation qui est fait en entreprise, on va pas payer la moitié du temps les profs à rien faire, donc c'est ce qui est en jeu un petit peu derrière. Et il y a une autre chose qui est en jeu, en dehors de la moindre formation des élèves, c'est l'autonomisation des écoles, parce que c'est ça qui est derrière aussi cette réforme. Donc on va supprimer une partie des matières générales, hein, qui sont inutiles pour le patronat et inutiles pour le gouvernement, qui ne veut pas former des citoyens mais juste des travailleurs et des travailleuses. Mais l'idée, c'est de l'autonomisation des écoles. C'est ce que Macron a dit. Il a dit, je cite, que son projet s'appliquerait établissement par établissement, avec la liberté d'adapter les heures de cours. Donc, dans chaque école, chaque lycée, ça sera différemment, fait différemment. Les entreprises pèseraient dans les choix, dit-il. Donc en gros, c'est le service public qui est subordonné aux intérêts privés. Alors il faut savoir que la formation professionnelle, elle est déjà chapeautée par l'enseignement, par le patronat. Hein, chaque branche, en fait, chapeaute une partie de l'enseignement professionnel. Mais là, on va beaucoup plus loin. L'idée, c'est, après cette autonomisation des écoles, c'est soit leur privatisation, soit leur transformation en CFA, en centre de formation des apprentis. En CFA, ce ne sont pas des enseignants. Ce sont des gens qui interviennent et qui sont payés à l'heure. Et oui, parce que le but, c'est aussi de se débarrasser des profs. D'ailleurs, Macron veut aller vite et des décrets sont déjà parus, notamment sur les possibilités de faire bouger les profs. Jusqu'à maintenant, quand vous étiez professeur en lycée professionnel, vous aviez passé un concours, un PLP. Ce concours était réservé au lycée pro. Vous avez le droit de faire quelques heures, jusqu'à un mi-temps en lycée général ou en lycée technologique, mais pas plus. Depuis quelques jours, est paru un décret qui ne segmentise plus les concours. Vous avez un PLP, vous pouvez aller en signer sans problème en lycée général. Ça laisse entendre que derrière tout ça, ils vont se débarrasser d'une partie des profs qui sont au lycée pro, voire de tous, et que comme il y a des trous en lycée général, et ben on va les faire basculer, et voilà, va falloir remplacer. De toute façon, il n'y a pas de prof de maths, il n'y a pas de prof de je sais pas quoi, d'allemand, et ben voilà. Alors je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de stock de profs d'allemand en collège, mais voilà, ça va faire ça. Donc grosso modo, c'est le but. Pour la prochaine étape, le gouvernement annonce des décrets qui seraient publiés en janvier, parce que le but, hein, c'est que la rentrée soit cadrée sous cette nouvelle forme dès septembre 2023. Donc il y a une vraie attaque. La formation professionnelle a toujours été dénigrée par tout le monde, par le gouvernement, par les familles. Il y a un climat général anti-formation professionnelle. Donc Macron, il surfe là-dessus, parce que notamment les parents d'élèves, il y en a pas beaucoup qui vont défendre l'enseignement professionnel. On a souvent des parents qui disent, moi, mon fils ou ma fille, je sais pas où il veut aller, mais tout sauf en pro. On entend ça régulièrement, tout sauf en pro. Donc ce mépris de la formation professionnelle, qui pourtant peut être intéressante, enfin, sans ces formations professionnelles, on n'aurait pas d'eau courante, on n'aurait pas d'électricité, on n'aurait pas la possibilité de manger des produits fabriqués par les industries, on n'aurait pas la possibilité d'aller au restaurant, enfin, etc. etc. Les formations professionnelles forment des gens qui sont productifs. Alors que le général forme une grande partie des gens qui sont non productifs, donc inutiles. Donc il y a un vrai problèmes de la formation professionnelle pour la défendre, pour la valoriser, et Macron est parti dans le chemin inverse. Et alors il suit ce que Sarkozy voulait faire, hein, puisqu'il voulait aussi généraliser l'apprentissage pour se débarrasser de l'enseignement professionnel et que ce soit le patronat qui gère. Donc je ne sais pas si c'est bientôt la fin du lycée pro, mais en tout cas c'est mal parti.
Alors on va aller du côté du Royaume-Uni. La laitue a donc gagné le duel.
La quoi ?
La laitue.
Pourquoi il y avait une laitue ?
Oui, puisque un journaliste avait décidé de poser une laitue pour savoir si elle allait moisir avant Liz Truss, la première ministre britannique, qui a donc démissionné.
Au bout de 45 jours.
Ouais, un mois et demi. Hein.
Pas mal.
C'est éphémère. C'est très très éphémère, on dit. Bon, faut dire que dans l'opinion publique, ça se passait pas très bien. Hein, mais bon, en même temps, les conservateurs, les gens ont voté pour. Hein.
Ouais,
c'est Après,
ça.
C'est comme chez nous. Les gens vont plus voter.
Ouais.
Donc c'est toujours compliqué. Hein,
ils avaient quand même voté pour cette Thatcher, la version moderne, mais ça n'a pas suffi.
Moi, je tiens quand même à signaler que elle a été l'une des signatures d'un ouvrage qui est sorti en 2012 avec Monsieur Quarten, dont on va reparler dans un instant, d'un ouvrage qui s'appelle Britannia Unchained. Donc c'est une des signatures du Parti conservateur, 2012 donc, c'est pas récent, mais c'est toujours très valable. Et dans cet ouvrage, il était noté que les travailleurs britanniques étaient les pires fainéants du monde, parce que là on est quand même dans l'ultralibéralisme, hein. Dans le foot, ça existe. Il paraît qu'à gauche aussi, il y a des ultras. Eh ben, il faut savoir que dans le libéralisme aussi, il y a des ultras. Et Madame Truss était et toujours une ultra libérale. Donc, elle a tenté des choses qui se sont pas bien passées. C'est vrai que elle a tenté d'apporter un budget pour tenter de sauver le Royaume-Uni, paraît-il, face à l'inflation. Le problème, c'est qu'elle a commencé à vouloir faire des baisses d'impôts. Alors, on en a déjà parlé, mais d'abord des baisses d'impôts pour les riches, mais aussi des aides pour la population face à l'inflation. Le problème, c'est que rien n'était budgété. Donc, il y a un moment, et ben, même les marchés se sont un peu emballés. Il y a eu une chute de la livre sterling extrêmement importante. Il y a eu les taux d'emprunt de l'État qui se sont emballés. Et bon, ça s'est un peu repris, si vous voulez, mais c'est vrai que son arrivée avait quand même un peu fait du remous, hein, même dans les cercles économiques et financiers. Alors bon, on va avoir un ou une nouvelle ou nouveau Premier ministre d'ici le 28 octobre prochain. On espère que bon, bah, tiendra plus longtemps que la laitue cette fois. Alors c'est reparti pour un tour, parce qu'il faut dire aussi que Madame Truss, elle était arrivée dans des situations compliquées, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse bataille quand même pour avoir ce poste, hein, donc désigné par le Parti conservateur. Et puis il y a eu des remous aussi dans son équipe, puisque par exemple Suella Braverman, ministre de l'Intérieur, a annoncé mercredi, hein, sa démission. Faut dire que bon, elle a fait une petite boulette qui se passe pas mal dans le monde politique, c'est qu'elle a envoyé les documents avec son adresse personnelle. Et ça, à l'heure du hacking. Du hackage.
C'est mal vu.
C'est pas très bien vu, et on se fait taper sur les doigts, donc elle a dû démissionner. Il faut dire que Madame Truss, elle a essayé des trucs un peu, puisqu'elle a été récupérée Grand Chaps comme ministre de l'Intérieur pour remplacer donc Madame Braverman, qui était Grand Chaps, qui a fait campagne pour le rival de Liz Truss. Vous voyez, donc elle a essayé de se dire, je vais essayer de ramener des gens qui sont pas mes copains et mes copines. Mais parce que justement, elle était en danger. Elle arrêtait pas de dire, hein, jusqu'à encore hier. Mais non, je ne démissionnerai pas. Bon, ça a pas duré. Mais voyez, elle était en danger quand même. Et puis, elle a dû aussi se séparer, hein, de son ministre des Finances, Monsieur Quarten, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a été remplacé par Jeremy Hunt, qui a défait dans la seconde. Oui, il a eu ce mandat de ministre. Tout ce qu'elle avait voulu mettre en place avec son budget pourri. Dire qu'il a dit non, on arrête tout. Et Monsieur Hunt était rival, hein, de Madame Truss pour ce poste de Premier ministre. Lui-même se représente pour tenter de gagner ce poste à nouveau, hein, pour cette nouvelle désignation qui aura donc lieu d'ici le 28 octobre, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que Monsieur Hunt, il avait soutenu aussi Monsieur Sunak face à Madame Truss. Donc il y a en fait quand même du bisbille au sein du Parti conservateur. Rien n'est simple, hein, quand même. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même de l'ultra-libéralisme. Je pense que même Macron, il est jaloux. Tellement, ouais. Ils sont libéraux.
Ouais, bah, il est pas loin quand même.
Parti conservateur. Ouais. Mais je pense que il a beau avoir Edouard avec lui. Edouard, pour l'instant, il est avec Horizon. Et donc, du coup, ça manque un peu de consistance. Non, mais c'est vrai que là, on retrouve quand même, à travers les différents gouvernements, quand même des gens qui sont dans un libéralisme qui est en train de nous étouffer, quoi.
Oui, enfin, ça fait 25 ans. Hein.
Ouais, mais là, on s'en sort pas trop, quoi, quand même. Hein.
Alors, c'est quoi la prochaine information? Ah, on va faire un truc léger, là.
Oui, alors, moi, d'abord, c'est moi qui vais ouvrir sur cette question-là.
Ah bon?
Ouais, tu veux parler de jazz.
Mais... Tu vas casser tout mon truc, je suis sûr.
Alors, voilà, vas-y.
Je pleure, ça y est.
Non, vas-y.
Je fais un caca nerveux. Non, vas-y.
Non, c'est parce qu'on a parlé du prix.
Bah, c'est après, ça, l'info.
Ah, eh ben alors, vas-y.
Mais c'est toi qui as fait le déroulé, là. Et ouais. Si on parlait culture et brousouf?
Ah, ben voilà, on va parler pognon après. Bon. Non, mais moi, j'aime bien parler pognon. Bon, alors, vas-y, on va parler de jazz, parce que...
Comme quoi, on n'est pas si coordonné que ça.
Non. On est sur Radio Canu, écoute. Ouais. Donc,
alors, je commence par des
infos... On va parler de jazz.
Voilà, légère sur le jazz à Lyon. Et ensuite, on bifurquera sur le pognon. Donc, ma question que je me suis posée cette semaine, que reste-t-il du jazz à Lyon? Alors, pas grand-chose, me direz-vous, à l'image un peu de l'état de la scène jazz en France, qui pourtant, si on se rappelle bien, il y a quelques années, derrière les États-Unis d'Amérique, le pays du jazz, fut une des scènes les plus importantes. Alors bien sûr, à Lyon, on peut chercher, on peut trouver l'autre club, hein, qui est rue Lanterne, alors qu'il y a un club qui existe depuis moult années, avec une vraie ambiance...
Je crois que c'est un des clubs les plus vieux au monde.
Ouais, une vraie ambiance club de jazz, pour le coup, avec pas mal, essentiellement d'ailleurs, des artistes locaux. Pas loin de chez nous, on a Jazz à Vienne, donc ça continue. Bon, bientôt...
En festival, tu veux dire.
Oui, ça n'aura plus de nom jazz, de jazz que le nom, hein, parce qu'il y a de moins en moins d'artistes jazz. On rajoutera d'autres choses, et tout récemment, on a été confronté, parce que c'est en ce moment, au festival Un Doigt de Jazz, festival de musique créé il y a un moment, hein, en 94. Le doigt, c'est pas le doigt de la main, mais c'est la doigt du nom du campus et de la partie de Villeurbanne qui s'appelle comme ça. Puisque c'est un festival qui se déroule tous les ans. Alors au départ sur le campus de la doigt, maintenant c'est un peu éparpillé, il y a beaucoup de concerts par exemple au Périscope.
Qui propose un peu de jazz, hein, quand ouais. Même, il faut le dire dans sa programmation.
Alors là, le but principal, c'était un truc plutôt classe, hein, c'était d'essayer d'amener le jazz dans le milieu étudiant. Bon, depuis, ils ont ouvert à tout ce qui découle du jazz, donc là, on met tout et n'importe quoi, hein, le funk, la soul, le hip-hop, l'afrobeat, etc. Mais d'amener donc ce genre de musique dans le milieu étudiant. Alors, comme on a pu le voir mardi dernier, où on a vu le trio Charlier, Souris, Winsberg au théâtre Astré, hein, qui est en plein cœur de la doigt, le public n'était pas majoritairement étudiant. Ce qui montre un peu la limite de l'impact de festival qui part avec d'excellentes intentions et qui au final a un impact relativement faible pour cette soirée-là. Il reste encore une date, demain soir il y a Johanna Duda qui est au Périscope, qui mélange jazz et électro, peut-être qu'il y aura oui, sera peut-être plus jeune le public que pour ce trio qui est un peu un trio de musiciens qui ont plus de 50 ans quand même.
Alors c'est ça,
cheveux blancs.
On peut penser quand même qu'effectivement il y avait autant de cheveux blancs sur scène que dans la salle.
Ah bah non, ils étaient que 3 sur scène.
Ouais, mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'était le rapport était quand même une soirée pour les vieux et les vieilles. Il y a effectivement des gens plus jeunes, mais c'est vrai que les moins de 25 ans, les moins de 30 ans, c'est-à-dire des gens qui peuvent être encore sur ce campus, étaient assez peu nombreux. Moi, j'ajouterais quand même que c'est vachement bien ce festival parce qu'il est monté par des étudiants et des étudiantes. Et ça a aussi une saveur particulière, oui. C'est qu'on permet aussi, bah, à un moment, quand tu es étudiant et étudiante, de monter un festival. C'est quand même vachement classe. Tu mets les deux mains dedans, t'apprends, c'est encore tout simple. Il y a des petits ratages. Moi, je trouve ça fantastique de ce côté-là. Et puis, effectivement, là, pour le coup, on avait un trio qui avait l'air d'être très heureux d'être aussi dans cette ambiance très particulière. Mais évidemment, les cheveux gris étaient quand même très importants.
Pour rester dans le jazz et dans les choses en lien, le doigt de jazz est associé au Reno Jazz Festival, hein, qui a co-organisé la soirée de mardi qu'on a vue et la soirée de demain au Périscope. Alors là, c'est un festival qui a un certain nombre d'années aussi, qui se passe plutôt au départ dans la Loire. Que dans la Loire, vers Rive-de-Gier, on va dire, et puis qui petit à petit s'est étendu. Donc maintenant, c'est un festival qui est un peu sur la Loire et un peu sur le Rhône, et qui amène le jazz un peu partout. Alors un jazz mélangé aussi, notamment avec pas mal de musique du monde. Voilà. Et dans les festivals, j'ai aussi trouvé le Saint-Fond Jazz Festival. L'autre fois, il y avait un caveau de jazz à Saint-Fond qui faisait pas mal de concerts et qui en fait beaucoup moins. En tout cas, ce qu'on peut remarquer de ces différentes programmations, c'est que les nouvelles voies pour conserver un peu de jazz, c'est de proposer une forme de jazz métissé, notamment avec l'électro un petit peu, et puis surtout avec les musiques du monde qui ont beaucoup plus la cote, on a l'impression, dans les différents lieux ou festivals qui ont encore l'appellation jazz. Donc elles s'en sortent vraiment bien. On a pu même le voir hier soir à l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, où Derek Gripper est venu jouer, qui est au départ lui un musicien classique, alors qui mélange pas mal de choses. Il y a des influences jazz dans son jeu, et là il mélange la musique d'Afrique. Alors il vit en Afrique du Sud, mais il mélange pas mal la musique malienne ou un peu de musique qui vient d'autres endroits en Afrique. Et on sent que c'est le métissage qui fait que une musique dite un peu savante peut encore exister aujourd'hui dans nos salles. Ce qu'on remarque aussi, c'est que ce jazz, il ne survit plus que dans des lieux très subventionnés. Ce qui nous laisse penser que le jazz serait peut-être devenu une musique du patrimoine et beaucoup moins une musique vivante. Alors, il y a des choses qui nous font voir le contraire. En première partie du trio de Charlier, Souris, Winsberg, mardi, on avait un jeune groupe de jazz joué par des musiciens et des musiciennes d'une école de Lyon, et c'était vraiment très bien, montrant qu'il y a quand même des futurs musiciens qui s'intéressent au jazz. Il y a peut-être pas le public, mais il y a les musiciens.
Ouais, non, s'intéressent
au jazz.
C'était bien aussi ce genre de festival. Ça permet d'ouvrir une première partie à de jeunes. Quand on dit jeunes, c'est pour dire que quand même, Laurent, maintenant tu es vieux, parce que quand tu les as vus arriver, tu as dit, ah, ils sont jeunes, tu l'as vu deux fois. Effectivement, on a des musiciens, musiciennes, ils ont 17, 18, 19, 20 ans, ouais. Un petit peu plus peut-être pour une partie d'entre eux, mais qui amènent une fraîcheur incroyable dans la musique, parce que on est à un âge aussi où on peut tenter des choses. On est peut-être moins dans une tournée, dans la vente d'un disque, dans justement un classicisme et dans une salle comme l'Opéra de Langlois. Donc, je trouve que c'est vraiment bien aussi d'avoir de jeunes gens sur scène.
Voilà. Donc, c'est encore un petit peu vivant, mais on a l'impression qu'on est plus dans le patrimoine qu'autre chose. Rappelons-nous du temps où les artistes tournaient dans les salles dans toutes les salles de Lyon et des banlieues, en Transborder ou ailleurs. Ça fait combien de millions d'années qu'il n'y a pas eu de concert de jazz au Transborder ? Aujourd'hui, les quelques artistes internationaux qui tournent, ils s'arrêtent juste à Paris ou dans quelques festivals un peu prestigieux. Ça se limite à tout ça. Mais il y a quelques exceptions. On pense à l'incroyable quartet de Joshua Redman, qui est accompagné de Brad Meldo, de Christian McBride et de Brian Blade, qui va se produire le 7 novembre à l'Auditorium de Lyon. L'auditorium qui propose de temps en temps du jazz, alors en général c'est en partenariat avec Jazz à Vienne, et aussi pas mal de musique du monde en partenariat avec d'autres structures. Alors c'est quand même bizarre de voir du jazz dans un auditorium. C'est contre-intuitif, ça fonctionne, ça ne devrait pas fonctionner. Parce que on n'a pas l'ambiance, hein, le jazz c'est dans un club au départ. Mais ça fonctionne quand même. Bah parce que on n'a pas le choix, que la salle est plutôt bien et qu'on est content d'avoir des artistes internationaux qui jouent ici parce qu'ils joueraient pas ailleurs. Donc chaque fois qu'on a vu du jazz à l'auditorium, c'était vraiment très très bien. La salle s'y prête au départ pas, mais en fait ça fonctionne quand même parfaitement.
Oui. Ce qu'il faut peut-être juste expliquer, c'est qu'on a une scène qui est grande pour des groupes qui sont pas si nombreux et qui ont parfois du mal à utiliser l'espace. Parfois qu'ils l'utilisent très bien, mais voilà, il y a un sentiment un peu de solitude parfois sur cette scène. Par contre, l'acoustique est tellement merveilleuse qu'on oublie tout ça quand même.
Ouais. Donc voilà, il y a quand même un petit peu de jazz. Donc, on rappelle le 7 novembre, saxophoniste accompagné d'un excellent pianiste, un beau quartet. Ce qu'on constate en fait de plus, aujourd'hui, on est en 2022, on est dans un monde ultra connecté où Internet a ouvert l'accès à toutes les cultures, à toutes les musiques, on peut écouter tous les disques. Le guitariste qu'on allait voir hier soir à l'Opéra Underground, la petite salle en bas de l'Opéra, on ne connaissait pas, on tape sur Internet, on peut écouter sa musique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a accès à des millions d'artistes avec des styles très différents. Ce qu'on se rend compte, c'est que cette ouverture a entraîné un effet inverse, un effet d'ultra-focalisation. Alors, qui fonctionne parce que Internet fonctionne avec du buzz et que le buzz alimente le prochain buzz, etc. Et que finalement, la diversité musicale, ça fait rarement partie des buzz. Du coup, on a une espèce d'entre-soi qui se crée et qui fait que les musiques qui sont populaires deviennent encore plus populaires. Alors, aujourd'hui, le jazz est-il encore vivant à Lyon ? Alors on pourrait dire un peu, on a le concert à l'auditorium bientôt, on a un doigt de jazz qui continue, mais on a l'impression qu'on est plus dans une espèce en voie de disparition. Alors vous me direz, les ours et les loups sont revenus dans nos montagnes, donc rien n'interdit à ce que le jazz ne revienne dans nos platines ou dans nos salles de concert. Et une des questions qui se pose et qui va nous permettre d'enchaîner, ça c'était mon petit bilan sur le jazz, parce qu'en ce moment il y a des choses qui tournent autour de ce genre de musique dans notre belle région. on se disait, tiens, mais est-ce que c'est pas le prix qui est limite ? Il y a toujours cette théorie en fait, les concerts, c'est cher et les gens, ils vont pas. Alors, pour info, le concert d'hier soir à l'auditorium coûtait... Ah, tu sais ce que tu voulais faire. Je vais te laisser te parler.
Enchaîne. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que tu disais tout à l'heure qu'on peut découvrir la musique. Effectivement, on peut découvrir la musique tout de suite sur Internet. Mais moi, ce que j'ai tout de suite envie de découvrir, c'est aussi parce qu'on a un programmateur qui vient dire trois mots sur l'artiste qu'il a sélectionné, qu'il a invité, et que c'est bien parce que le programmateur aussi me présente cet artiste que j'ai encore plus envie que le concert débute. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a le face-à-face, et puis c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude d'y aller, c'est vraiment une salle absolument magnifique, l'acoustique est très bien, et puis on a cette proximité avec les artistes, tout de suite, qui est absolument vraiment, moi je trouve ça absolument merveilleux, hein. Il nous a raconté tout plein de choses hier, ouais. Derek, ce musicien.
Bon, il faut essentiellement de la musique du monde, quand même, dans la programmation de l'Opéra.
Alors on en a quand même au troisième programmateur, hein, c'est dernières années, donc c'est vrai que ça n'aurait cesse de se mouliner dans un sens et dans un autre, mais c'est vrai qu'il y a 15 ans, on avait beaucoup de jazz, beaucoup de musique trad déjà, voilà, là, on a quand même un tas de choses, mais...
Attends, on peut quand même dire, il a un avantage sur tous les autres programmateurs. Il est venu avec un t-shirt Radio Canut, ouais, pour parler du musicien. Ça, c'était pas mal.
De, ouais. Les gens qui portent un t-shirt de Radio Canut.
Alors, parlons Brosouf.
Alors, on a décidé de parler de jazz, mais à la base, nous avons une petite discussion ensemble parce que il faut dire que je vous rappelle qu'il y a une émission de métal le vendredi, 20h, 22h, 2h pour en prendre plein les oreilles. Et que donc, nous avons discuté du tarif du Hellfest 2023.
Ouais, ils ont pété un câble.
Tu m'as donc dit que c'était très cher. Il faut dire que ça dure 4 jours, hein, 2023, si j'ai tout.
Ils ont rajouté un jour.
Il y a un jour en plus, donc ça veut dire plus de concerts, plus de bonheur et plus de musique et moins d'oreilles. Cette année, comme d'habitude, ça s'est vendu très très vite.
1h20, un truc comme ça.
Voilà,
c'est-à-dire. En fait, c'est ceux qui sont connectés les 5 ou 10 premières minutes ont pu acheter des places même 1h20 plus tard, mais les autres, c'était trop tard. Ça s'est joué en 10 minutes, a priori.
Alors, si j'ai tout compris, le pass coûte 329€, c'est ça ?
Ou 300, ouais, même.
329€, ouais. Bon. Tout de suite, tu m'as dit, en quelques instants, tout s'est vendu très vite. Et ensuite, il restait un autre pass. Plus cher, puisque c'est le pass collector, et où, dans lequel tu peux acheter le livre. Donc, cette année, il y a quand même un certain nombre de gens qui se sont dit, attends, il reste plus de place, mais il en reste encore. Mais avec le pass collector, et donc, on est obligé de prendre le truc super cher avec le livre dont on veut pas, pour pouvoir quand même assister à ce festival. Et donc, il y a des critiques qui sont amenées cette année contre le Hellfest, en disant, mais pourquoi vous faites pas juste des passes simples? Et puis, ceux qui ont envie d'acheter le pass avec le livre, ils payent plus cher. Sinon, ouvrez davantage.
Alors, je n'avais pas beaucoup, en fait. Hein.
Ouais, sauf que, voilà. C'est les critiques qui sont amenées cette année sur la question. Et puis, il y a une augmentation. Hein. Alors, on nous dit, oui, mais tout est plus cher. Les gens, ils sont plus chers. Bon, les techniciens, il paraît que vous faites plus d'argent, si on écoute la direction de Hellfest. Tant mieux, c'est bien. Par contre, a priori, c'est surtout que y a des musiciens et des musiciennes qui coûtent toujours de plus en plus cher. Et que ça, c'est une partie qui revient extrêmement cher à tous les festivals en France. Et c'est pas tant les problématiques comme on a pu l'entendre dans la bouche de la direction, les prix de l'énergie, l'inflation, les coûts de la sécurité, des matières premières. Les matières premières, c'est les gens qui sont sur scène, essentiellement. Mais voilà, ça a fait râler. Et puis c'est vrai que c'est quand même un prix un peu important pour aller dans un festival. Parce qu'il y a quelques années en arrière, c'était beaucoup moins cher. C'est ce que tu m'as expliqué quand même, qu'on avait un festival qui était largement plus abordable.
Pour trois jours de concert, c'était moitié moins cher.
Et donc, effectivement, on en revient à ta question de est-ce que le prix de la culture et du spectacle, puisque c'est le spectacle dont nous parlons, pose un problème. On a eu cette question qui est arrivée là parce qu'il y a eu, la semaine dernière, beaucoup de discussions sur le prix du cinéma parce qu'il paraît que nous avons déserté les salles de cinéma et que... les exploitants s'en sortent pas très bien.
Et que une des raisons avancées, c'est ça coûte très cher le cinéma.
Alors, c'est vrai que le cinéma, quand vous allez à l'UGC au Pathé, quand il faut sortir près de 15 balles,
ça fait cher.
Ça fait cher la place en journée. Alors, Après, comme toujours, il y a des astuces. On n'est pas obligé d'aller dans un UGC ou un pâté. On peut se trouver des salles hein, où on va payer à peu près 5 ou 6 euros sa place, qui déjà fait largement moins cher. On peut aussi aller à des séances hein, quand on ne travaille pas le matin, le week-end par exemple aussi. Donc après, il y a une organisation, je ne dis pas. Mais en fait, il y a aussi des gens qui proposent du cinéma moins cher. Alors évidemment, quand, si on veut voir que du Avenger avec du Marvel, on est un petit peu dans la difficulté pour se rendre dans ce genre de salle. Mais ça veut dire qu'il faut accepter une autre culture. Et pour la musique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le concert que nous sommes allés voir hier, la place était entre 10 et 12 euros. C'est-à-dire, c'est un des concerts les moins chers qu'on a pu avoir ces derniers temps, très sincèrement. Dans le cadre d'un doigt de jazz à la salle Astrée, c'était 13,50 euros en plein tarif. Donc ça veut dire qu'on a encore des possibilités de pouvoir trouver, quand on a un petit peu un porte-monnaie, quand même du spectacle pas cher. Évidemment, j'entends, je vous mettez pas en colère, quand on est à 24 heures au SMIC, quand on est à temps partiel au SMIC, ou quand on est au chômage ou avec une petite retraite, c'est la galère, on est au courant. Sauf que quand on est au chômage et à la retraite, on a du temps et c'est là où on peut s'organiser. N'oubliez pas que cette salle magnifique qu'est de l'Opéra de Dangond, ça m'a parti allons-y tous ensemble.
Fait plein de choses gratuites.
Fait des choses gratuites. On a des projections gratuites. Alors oui, il faut y aller des fois entre midi et deux. Ou il faut se bouger le derrière le dimanche. Je suis derrière, voilà. Mais en même temps, c'est gratuit, il y a des projections. On a des moments aussi par exemple, les élèves du Conservatoire National de Musique et de Danse qui viennent proposer aussi des séances. On a un moment où on peut aussi aller à la culture, évidemment. Le truc, c'est qu'on va pas voir Indochine ou les Rolling Stones au parc machin là-bas, au truc immense avec des tarifs très chers. Évidemment, on va pas voir des Marvel à 15 balles en journée le week-end. Évidemment, c'est une autre culture parce qu'il y a une culture aussi en France qui est très chère. Donc, on a un cinéma très cher, on a de la musique très chère, on a des gens qui aujourd'hui, alors évidemment, hein, les Rolling Stones, ça coûte très cher parce que ils prennent très cher, parce que la technique coûte très cher, parce que l'organisation coûte très cher. Mais on peut aussi se préserver.
Et ça coûte très cher parce que c'est à la mode, parce qu'il y a un effet de buzz, peut-être. Et que c'est bien, tu peux raconter à tes potes, ouais, je suis allé voir les Rolling Stones, alors que ça fait 20 ans que c'est peut-être pas terrible, et qu'il y a 20 ans, les Rolling Stones, c'était le même prix, mais en francs, 25 ans. Donc tu vois, enfin, c'est l'effet de buzz qui fait que la culture, elle est chère, parce qu'il y a un effet de buzz, parce qu'il y a un effet de mode, parce qu'il faut aller voir ces groupes-là, parce que tout le monde y va. Tu citais le Hellfest, dans le métal, il y a un phénomène effroyable en ce moment, c'est que les gros groupes qui sont bons, mais qui l'étaient il y a 15 ans, ils faisaient des concerts, ça coûtait deux fois moins cher, et puis c'était jamais complet. Et maintenant, il faut absolument y aller, il y a du buzz, on peut se vanter, ouais, je suis allé voir tel groupe, et du coup, c'est complet en 10 minutes sur Internet. Donc, c'est bien l'effet de buzz et l'effet numérique, je pense, on peut échanger, dire, ouais, je suis allé voir ça, qui casse un petit peu ce qu'on avait avant, c'est-à-dire un accès plus facile à la culture.
Oui, alors, il y a en plus, je continue, hein, mais tout un tas de petits théâtres qui vous proposent des places autour de 15 euros, donc c'est aussi assez accessible. Alors, évidemment, quand on veut aller au Célestin, aller à l'opéra aussi en grande salle, c'est vite assez cher hein, quand même. À l'auditorium, c'est extrêmement cher. Quand on veut aller voir aussi des spectacles comme au Radiant, c'est assez rapidement cher. Donc, on entend bien ça. Et puis après, il y a quand même toute une scène alternative qui existe aussi hein, sur Lyon et les villes autour qui nous permettent des fois d'aller simplement découvrir aussi une nouvelle scène différente avec des concerts différents. Et il y a plein de lieux à Lyon qui existent aussi comme ça où on va payer moins de 10 euros pour de la musique différente. Voilà. Sauf qu'effectivement, il faut sortir ses zones de confort. Et c'est bien ça toute la difficulté aujourd'hui. Et c'est aussi une des problématiques qu'on rencontre dans le cinéma. C'est que une des critiques qui pourrait être amenée aussi, c'est que le cinéma français, on est un peu en entre-soi, si vous voulez. Cette interview de Madame Seignier qui a fait beaucoup parler, hein, cette femme compagne de Monsieur Polanski, hein, où elle dit que son mari, bah, quoi, c'était une autre époque.
Violeur,
elle défend
quoi.
Son mari qui, bah, quoi, c'était une autre époque, c'était normal de violer des enfants de 13 ou 14 ans, hein, qui, je ne vais pas vous la refaire, vous avez certainement entendu. Quand elle ose dire que son mari a des difficultés à faire du cinéma, il suffit de voir un film comme J'accuse, où on a toute la scène du cinéma français masculine qui se retrouve dedans. Donc, je ne crois pas que M. Polanski ait du mal, mais on a quand même un petit cercle. On a beaucoup de fils et de filles d'eux, et il y a peu de remise en question pour une nouvelle aussi énergie, avec une nouvelle envie d'aller voir du cinéma. Et c'est là où Netflix aussi arrive à se poser en nous sortant des choses qui ne sont peut-être pas bonnes, mais en tout cas qui donnent peut-être envie aussi aux gens de regarder ce cinéma. cinéma plutôt que d'aller voir du Polanski avec des vieux bonhommes dedans. Tout pourri.
Conclusion, le problème du coup n'en est pas un. Il y a plein d'alternatives et parler du coup, c'est détourner l'attention des vraies problématiques qu'on peut avoir dans la culture et ailleurs.
Mais il y a quand même des gens qui abusent. Hein. Voilà, le Hellfest, pardon. Mais... Alors après, vous allez me dire, oui, mais au ratio qualité, tu sors ta feuille Excel et tu fais des calculs. Effectivement, avoir autant de concerts pour 329 euros, je suis d'accord. Mais voilà. Bon, allez, on va parler du capitalisme aussi.
Ouais.
On va
continuer avec la santé. Si vous avez vu, il y a eu un titre du Monde aujourd'hui qui écrit en gros « Les lobbies de l'industrie chimique ont gagné ». Et là, quand on a ça, on se dit dans le Monde, ça ne doit pas être beau ce qui est en train de se passer. Et oui, malgré les pressions, les attentes des ONG, de certains pays aussi, de certains eurodéputés, la révision européenne sur les produits chimiques n'est annulée provisoirement, repoussée, enfin bon, bref, pour l'instant, elle n'a pas lieu. C'est une énorme déception, hein, parce que c'était quelque chose qui était porté par pas mal de gens depuis de nombreuses années. Alors, pour rappel, hein, c'était le 25 avril dernier que la Commission européenne avait présenté sa feuille de route, dont le but était d'éliminer les substances chimiques les plus dangereuses pour la santé et l'environnement des produits de grande consommation d'ici 2030. Donc à l'époque, les ONG de défense de l'environnement, notamment, on pense à Génération Future ici, qui a fait beaucoup de choses sur la pollution aux pesticides, avaient salué cette feuille de route de la Commission européenne, parce que voilà, ça donnait ça donnait quelques mois pour prendre la décision, et ensuite on avait, les industriels avaient 7 ou 8 ans pour sortir de ces produits cancérigènes, dangereux, etc. Alors, il y avait deux réglementations qui étaient touchées. Le WEACH, c'est l'acronyme de Enregistrement, Évaluation, Autorisation des Produits Chimiques. Enfin, c'est l'acronyme en anglais. Hein. Et CLP, qui est l'acronyme de Classification, Étiquetage, Emballage, qui était aussi concerné. Alors, c'était quoi les enjeux? C'était une évaluation des produits chimiques, non plus par substance, mais par famille de substances. Et ça, c'était ultra important. Aujourd'hui, les perfluorés, par exemple, les PFAS, ça s'appelle, c'est 4800 substances. Pour l'instant, les industriels demandent qu'il y ait des études sur chaque substance pour ralentir la découverte de la dangerosité. Or, en fait, c'est la famille qui est dangereuse. Donc, l'idée qui était prévue, c'est on travaille par famille de produits. Et ça allait beaucoup plus vite et ça permettait d'éliminer rapidement. Il y a aussi l'identification des fameux perturbateurs endocriniens. On en parle pas mal depuis quelques années. Ça aussi, il y avait un gros progrès qui était attendu là-dessus. Paf! Ah, pour l'instant, c'est repoussé. Il y avait la possibilité de prendre enfin en compte l'exposition à des mélanges de ces produits. Parce que actuellement, quand un industriel met un produit de merde dans son produit, hein, une des E machin, il ne teste la dangerosité que sur sa substance. Jamais avec les 4 ou 5 autres qui existent dans le même produit ou les 40 autres que vous avez mangés dans la journée à travers d'autres produits. Et en fait, ces effets cocktails sont suspectés d'avoir un impact beaucoup plus fort que les produits chimiques toxiques et dangereux individuellement. Et ça, il y avait la possibilité de mettre ça en œuvre. Paf, c'est pour l'instant, ça a sauté. Et puis, il y avait la possibilité d'interdire certains usages grand public et professionnel des substances les plus dangereuses. Bref, il y avait tout un panel de mesures qui concernait la protection des citoyens et des citoyennes européens dans leur environnement. Alors, vous me direz, c'est l'Europe qui fait. Bah oui, parce que les pays ne le font pas. Il y a toujours ceux et celles qui critiquent très rapidement l'Europe. Enfin, les mesures de protection environnementale, sans l'Europe, on n'en aurait quasiment pas. Le gouvernement en prendrait quasiment pas. D'ailleurs, quand il retranscrit les directives européennes, il les retranscrit toujours à minima. Il en fait jamais plus, alors qu'il y a possibilité d'aller souvent plus loin. Donc c'est vraiment dramatique la repousse de le report, on dit pas repousse, le report de cette réforme. Voilà. Alors la faute à qui? Bah c'est simple, c'est le lobbying. Le lobbying des géants de la chimie qui ont bossé comme des fous contre ce truc qui s'appelait le Green Deal et tout ce qui concernait les produits chimiques. Et certains pays, dont la France, il y a eu un gros travail de SAP de la direction de chez nous qui vient de la direction chargée du commerce intérieur et de l'industrie, porté par son commissaire qui s'appelle Thierry Breton. Eh oui, les grands patrons sont aussi les principaux défenseurs de ces produits chimiques, toxiques, cancérigènes et autres perturbateurs endocriniens. Donc en décidant le report de la révision de REACH et de CLP, la Commission européenne a avoué être sous pression des industries chimiques. Voilà, donc c'est très très négatif. On a des études qui sont sorties cet été sur l'augmentation très très forte des cancers pour les moins de 50 ans ces 40 ou 50 dernières années, qui sont sûrement dues, en tout cas c'est les principaux suspects, à ces molécules dangereuses qu'on a dans les produits industriels, voire au cocktail de ces molécules. Donc on est tous et toutes écœurés. Alors ils se sont servis de différents prétextes, hein. La guerre en Ukraine, la compétitivité des entreprises, tout ça. Bref, le lobbying de la bouffe et des produits chimiques a gagné. Alors c'est provisoire, mais comme il y a des élections européennes dans d'ici je sais plus quelle est la date, 2024, et que c'est repoussé au moins à 2024, ça se trouve les prochains élus seront contre parce qu'ils seront encore plus libéraux. Et la défense de l'environnement et de la santé des citoyens et citoyennes aura encore perdu.
Alors, avant de parler d'anthroposophie, on va parler d'abord de Charles III.
C'est le nouveau roi, c'est ça?
Ouais, il y a un lien, vous allez voir. Mais d'abord, juste pour dire, parce que ça m'a fait rigoler, il y a 11 députés du parti Québec solidaire. Alors, juste pour rappel, le Québec, c'est pas le Canada, non, parce que vous allez comprendre. Ont donc prêté serment. Ils sont tout nouveaux, ils arrivent. Hein, ils sont députés. Et donc, ils doivent faire le serment de bonjour, je suis nouveau député, tout ça, tout ça. Et puis ensuite, ils doivent faire un autre serment d'allégeance à la monarchie. Et ben, ils ont refusé de prononcer ce deuxième serment d'allégeance à la monarchie. Alors qu'en fait, ça peut les empêcher hein, de siéger à l'Assemblée nationale québécoise en novembre prochain. Donc, ça fait réagir. Mais alors, il y a donc Québec solidaire. Et puis, il y a aussi le Parti québécois qui va prêter serment. Et on a déjà appris que plusieurs élus avaient décidé de ne pas prêter allégeance à Charles III. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef de ce parti québécois, a expliqué qu'il s'agissait d'un conflit d'intérêts car on ne peut pas servir deux maîtres. Ça m'a fait rire, pardon, excusez-moi. Et que c'est un rappel de la domination coloniale hein, des Britanniques sur le Canada. Alors, quand je vous dis que c'est pas la même chose, c'est que en fait, on a appris qu'il y a au Québec 71% des Québécois et Québécoises qui ont participé à ce sondage qui aimeraient bien se désengager de cette monarchie. Du côté du Canada, d'une manière générale, on atteint les 50%. C'est tout nouveau. C'est spectaculaire, paraît-il, parce que ça n'était jamais arrivé. Alors, Monsieur Trudeau rappelle qu'il n'y a pas vraiment une envie et une volonté de rouvrir la Constitution, parce que pour se désengager de la monarchie, il faudrait effectivement changer la Constitution. Ce qui paraît très compliqué, parce que tout le monde se dit qu'il y en a pour des années à négocier tout ça et qu'on n'est même pas sûr du résultat. Donc, personne n'a envie de se lancer là-dedans, même s'il y a des voix qui commencent à s'élever pour se dire, ils commencent à nous saouler.
Ouais, le Canada, c'est 1931, l'adhésion là, au Commonwealth et à tout ce truc avec la couronne britannique. C'est assez récent, donc il pourrait vraiment en sortir, je pense, avec un peu de bonne volonté.
Alors, Charles III, qui souvent aime bien rappeler que l'environnement, ça l'intéresse et que l'agriculture biologique, c'est vachement bien, a quand même quelques tendances sur la pseudoscience.
Ouais, ça, ouais.
Hein une de ces pseudosciences aimées chez Monsieur Charles, le troisième, c'est la biodynamie. Biodynamie, donc, pseudoscience de l'anthroposophie, où vous pouvez, par exemple, remplir une corne de vache avec de la bouse de la même vache ou d'une autre, l'enfouir dans le sol, et puis ensuite mettre de l'eau dynamisée. Vous en avez parlé il y a quelques temps de ça. Pulvériser tout ça.
Ça fait pousser les légumes de tout le champ. C'est un truc de dingue, avec les ondes cosmiques de Vénus.
Ouais, enfin, il y a plein de trucs. Voilà, voilà. Donc, il aime bien ça, Charles le Troisième. Il avait quand même participé par deux fois au congrès international de biodynamie. C'était en 2016 et en 2017. Dans ses discours, à chaque fois, il rappelle que la science est réductionniste et qu'il critique cette même science basée sur les preuves. Parce qu'apparemment, les preuves, c'est pas bien, d'après tout ce que j'ai compris dans ses analyses. Alors, il faut se souvenir qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Harmonie, une nouvelle vision du monde », c'était en 2010. « Harmony, a new vision for the world », dans le titre original. Et alors là, il explique qu'il y a, en fait, une dimension spirituelle de notre existence qui a été négligée dangereusement dans les temps modernes. Les temps modernes, donc, a priori, c'est égal à la science. Ouais. Et que la biodynamie est une méthode de production d'aliments qui, je le cite, hein, qui s'approche encore de plus près des processus naturels de l'agriculture et de tous les cycles de la vie de la nature. Ben dis donc, tu m'en diras tant. Bon, quand il était encore prince de Galles, hein, parce que 2016-2017, il était prince de Galles, hein, prince de Galles en 82, donc autant dire qu'il était encore tout jeune, il avait été élu à la présidence d'honneur de la British Medical Association, et dans son discours, il s'en était pris à la médecine qu'il appelle moderne, hein, voilà. Et il avait mis en avant les guérisseurs et les guérisseuses, parce que ça, c'est vachement mieux. Et puis, c'est un grand... amoureux de la chiropractie et de l'ostéopathie. Alors, vous savez, en France, on a, je sais, hein, vous allez me crier dessus, mais une adoration pour l'ostéopathie qui est incompréhensible quand même dans le reste du monde. Soit au mieux, vous avez un ostéopathe qui vous fait de la kiné, et du coup, au lieu de payer 15 balles la kiné, vous payez 60 balles votre séance. Ouais, soit après, vous avez quand même des ostéopathes qui vous expliquent qu'ils vont vous soigner tout un tas de trucs en regardant vos fonds de l'œil, ou en vous mettant la tête d'un côté ou de l'autre. En tout cas, Charles III, il aime ce genre de pratique alternative, puisque lui, ce qu'il veut, c'est une santé intégrative, hein, vous savez, le tout holistique. Ah, vous voyez le principe. En tout cas, on sait maintenant que quand il était prince de Galles, il a envoyé, et peut-être fait largement chier, les ministres de la Santé. Il leur a envoyé beaucoup de notes, a priori, pour leur expliquer c'était quoi la vraie thérapie, et que la science c'était mal, et que la médecine contemporaine, moderne, c'était très très mal. Il avait même monté une association qui depuis a été dissoute pour malversation financière, qui s'appelle la Foundation for Integrated Health, donc Health à la Santé, qui a été dissoute en 2010, cette association. Mais en fait, il avait même commercialisé un complément alimentaire de détox, vous savez, la fameuse toxine, qu'on sait pas bien ce que c'est, cette toxine. Mais en tout cas, il faut détoxifier l'organisme. Donc, il avait créé et vendu un complément alimentaire à base d'artichaut et de pissenlit. Et puis, finalement, il s'était retiré, puisqu'a priori, bon, il y a quand même eu pas mal de critiques sur le fait que le prince de Galles nous revendait quand même du complément alimentaire. Mais c'est vrai que dans la famille, il y a une tradition, en particulier sur l'homéopathie. Pour l'homéopathie, j'ai employé des termes un peu corrects quand même, parce que maman... Elisabeth aimait beaucoup les homéopathes et l'homéopathie. Elle avait un homéopathe préféré, attitré. Et puis, il a baigné là-dedans. Donc, il y a vraiment une tradition familiale contre la science, globalement, on peut dire ça, et contre des pratiques alternatives pour s'auto-médicamenter. Donc, il paraît qu'il y a l'aromathérapie, l'iridologie, hein, ça c'est quand même... moi j'adore ça, là, c'est quand même un truc que j'aime vraiment. Et puis, plein d'autres pratiques dans cette famille royale. Alors moi, j'aime pas quand on dit des médecines alternatives, parce qu'elles sont pas très alternatives.
Elles sont pas très médecines.
Surtout. Et voilà, c'était sûr que j'allais dire, merci. Mais bon, j'ai lu quelques pas, et je vais vous citer je crois que c'est une... Je vais être obligé de citer l'Express, vous allez m'excuser, qui dit « Mais devait-on s'attendre à ce que la rationalité scientifique soit au cœur des préoccupations d'un monarque de droit divin ?»
Ouais, c'est ça.
Je trouve ça
en fait,
assez juste.
Voilà, c'est
voilà.
Énorme.
Et donc, je parle de ça parce qu'en fait, avant que tu puisses terminer avec Calais quand même, parce qu'il y a la première adjointe de Monsieur Doucet, donc à la mairie de Lyon, qui s'est fait quand même un peu rétorquer. Alors c'est une grosse bataille hein, sur les Twitter, il faut le savoir, entre ceux qui pratiquent la fausse science et donc l'anthroposophie par exemple, et puis qui aiment bien les sectes hein, quand même, et puis l'autre membre qui met la science en avant, la rationalité aussi. Et donc, il s'agit de Audrey Enoch, qui, le 15 octobre, a fait un tweet. Si vous voulez que votre épargne ait un impact positif sur l'environnement et le développement social et culturel des territoires, voici une belle opportunité, prendre des parts dans une banque éthique avec la jolie photo de la nef dessous. Alors, la nef nous dit toujours, mais non, nous, on n'est pas anthroposophes. En tout cas, déjà, il y a plein de preuves que c'est pas tout à fait vrai. Et puis, en plus de ça, on trouve tout plein de partenaires soutenus par la nef, hein, par exemple, Terre de Liens, qui prône la biodynamie. On vous rappelle, biodynamie égale fausse science, fausse agriculture, de l'anthroposophie, enfin agriculture, mais pourrie, moisie. Voilà, donc en fait, c'est intéressant de voir quand même ces élus verts se mélanger quand même à des pratiques douteuses en termes de science, et puis surtout sectaire quand même, c'est aussi sur ça qu'elle a été largement attaquée. Et d'ailleurs, je vous laisse aussi aller voir la nouvelle communication Boiron, qui a bien été obligée de se recentrer et qui aujourd'hui tente à culpabiliser les parents quand même, pour dire que vous devez respecter votre corps, mais surtout soutenir la santé de vos enfants. D'ailleurs, maintenant, Boiron a mis en place un service pour vous faciliter l'accès à l'information, l'observance des traitements, le rangement des produits, et aussi pour vous aider à trouver un professionnel de santé pratiquant l'homéopathie, parce qu'on en est là. Il faut quand même fourguer les produits. Donc on se dit que Boiron doit faire quand même un travail de fond et de sape auprès des soignants et des professionnels de santé pour retrouver quand même des gens qui prescrivent de l'eau sucrée. Enfin, en tout cas,
des billes d'eau sucrée.
Des billes d'eau sucrée. Mais voilà, c'est intéressant d'aller fouiller un petit peu quand même, parce qu'il y a aussi un article quand même sur le site de Boiron. L'hémopathie, un appui pour renforcer l'immunité à l'approche de l'hiver. Moi, j'ai lu le paragraphe. J'ai pas compris à quel moment ça renforce l'immunité. Parce qu'il vous explique plein de trucs. Il faut bien manger, il faut faire attention, il faut faire du sport, que des trucs plutôt de bon sens. Et c'est plutôt bien de le rappeler. Mais ensuite, j'ai toujours pas compris en quoi. Ça marche, parce qu'on nous dit l'homéopathie est une solution qui peut aider à chacun à renforcer son immunité de façon personnalisée avec une approche holistique, mais on nous explique jamais comment ça marche. J'ai toujours pas la preuve.
Mais non, mais ils savent pas. Je te rappelle que pendant des années ils avaient proposé des beaucoup de brousouf pour celui qui démontrerait quoi que ce soit sur l'homéopathie.
Et les brousouf, ils sont toujours là.
Et voilà, ils sont jamais dépensés de l'argent.
Voilà, mais enfin en tout cas c'est très intéressant quand même de continuer à suivre toute cette fausse science, et en particulier quand ça touche le monde médical.
Alors oui, on va parler des migrants et de Calais, et c'est avec une plutôt bonne nouvelle. Vous savez que à Calais, qui est un endroit assez proche de l'Angleterre, il y a pas mal de migrants qui se regroupent dans des campements de fortune, avec comme objectif d'essayer de passer en Angleterre. Ils sont attirés par l'Angleterre en pensant que ça va être la belle vie. Bon, ça c'est un autre débat. Mais pour l'instant, ils se retrouvent en France, à Calais. Et la préfecture trouve des excuses incroyables. Alors souvent, c'est troubles à l'ordre public, risques sanitaires, pour prendre des arrêtés contre ces migrants. Alors les arrêtés, par exemple, en septembre 2020, entre septembre 2020 et avril 2022, d'interdiction aux associations non mandatées par l'État d'aider les migrants, de leur donner à manger notamment. C'est revenu en août de cette année. Alors là, on se dit, ça va loin quand même, on n'a pas le droit d'aider. Ah non, c'est que tu collabores avec les migrants, c'est mal. Heureusement, dans un jugement, c'était la semaine dernière, le 12 octobre, le tribunal administratif de Lille, qui avait été saisi par pas mal d'assos, notamment le Secours catholique et Médecins du Monde, le tribunal a estimé que les interdictions éditées par trois arrêtés préfectoraux de septembre, novembre et décembre 2020 étaient disproportionnées par rapport aux finalités poursuivies, notamment parce qu'elles affectent les conditions de vie de populations particulièrement vulnérables. Donc le tribunal souligne aussi que les distributions assurées par l'État via une association mandatée qui s'appelle La Vie Active sont largement insuffisantes pour assurer trois repas par jour pour chaque personne. Donc l'avocat des différentes associations, Maître Patrice Pinozzi a été content, il a salué une grande victoire. Il a estimé que le tribunal condamnait, je cite, une pratique particulièrement attentatoire aux droits fondamentaux des étrangers, c'est vrai. Et il a dit ça fait jurisprudence. Alors on espère qu'il ne se trompe pas, que ça fera vraiment jurisprudence, et que l'État hésitera avant de prendre des mesures répressives, dégradantes, humiliantes contre ces migrants qui se trouvent déjà dans des situations de grande difficulté. Voilà. Cette info nous vient de l'association Utopia 56. C'est sorti le 12 octobre et pourtant, c'était pas arrivé jusqu'à nous. Il a fallu qu'Utopia 56 fasse un communiqué de presse, en parle, pour que ça arrive jusqu'à nous. C'est une association d'aide aux exilés qui a été fondée en 2015, qui regroupe 8 antennes et 18 000 adhérents. Et c'est le nombre qui est important, 18 000 adhérents. Ça veut dire qu'en France, il y a plein de personnes qui sont prêtes à aller aider, surtout dans cette région où il y a une forte présence de migrants, à aller aider ces migrants et ces migrantes. Donc voilà, ça rassure. Ils ont organisé aussi des trucs un peu plus symboliques et plus forts, Place de la République à Paris avec des tentes une fois, enfin voilà. Donc c'est une bonne nouvelle que cette action en justice. Il nous reste quelques minutes.
Ouais, juste pour vous dire que Danone a enfin décidé de lâcher une partie de ses activités en Russie. Depuis février, on attendait quand même un peu une réaction. C'est un peu comme Auchan du groupe Muyez. On voit rien venir. Alors, quand je vous dis qu'une partie, c'est qu'il y a plusieurs activités de Danone. Il y a la partie produits laitiers et végétaux. Et puis, il y a la partie sur tout ce qui est produits spécialisés. Et là, nutrition spécialisée. On parle de Blédina et Aptimil, c'est-à-dire quand on parle du lait infantile. Donc Danone a décidé de se retirer. dû largement réfléchir parce que c'est des grosses pertes. Hein. Donc on ne sait pas encore à qui Danone va tenter de refourguer cette partie produits laitiers et végétaux, donc c'est les laits, les yaourts, vous l'aurez compris, pour qu'il y ait quand même une reprise de ça, puisque c'est quand même... Juste pour vous donner un chiffre, hein, cette partie produits laitiers et végétaux dans le monde, c'est 7 milliards d'euros de ventes, hein, au premier semestre 2022. Donc c'est beaucoup d'argent pour Danone. Mais il y avait eu une excuse pour pas quitter la Russie. C'était le patron Antoine de Saint-Afrique qui avait donné une interview au Financial Times, qui avait dit: nous avons une responsabilité envers les personnes que nous nourrissons, les agriculteurs qui nous fournissent du lait et des dizaines de milliers de personnes qui dépendent de nous. Quand une multinationale commence à nous aimer, c'est suspect. Bon, bah voilà, c'est alors Danone quitte un petit peu la Russie, mais pas totalement quand même, il faut le dire. Va y laisser certainement un peu des plumes financières, mais enfin, vu la multinationale que c'est, il va falloir qu'elle se rattrape ailleurs, et voilà.
C'est la fin de ce Canu Info. Je voulais rappeler de faire attention à l'extrême droite. Deux attaques le week-end dernier à Lyon.
Ouais.
Des membres du collectif 69 Palestine sont fait agresser. C'était donc le 14 octobre. Et deux jours après, les fachos ont attaqué des grévistes de Lyon à Lyon PRH qui avaient des banderoles de la CNT. SO, je crois. Donc voilà, et, l'extrême droite est très présente. Ils sont descendus sur les pentes de la Croix-Rousse. Ils ont mis des tags ultra racistes de partout.
Ouais.
Voilà, l'extrême droite est toujours forte. Il y a eu des condamnations aujourd'hui, mais il faut continuer à lutter contre leur présence et leurs idées portées de manière plutôt efficace, hein, par la droite et l'extrême droite. On pense à cette jeune femme assassinée à Paris, où la droite et l'extrême droite instrumentalisent un fait divers horrible, jeune fille, instrumentalisent un fait divers horrible pour faire passer leurs idées nauséabondes.
Quand tu dis agressif, les tags que nous avons vus et que nous avons tenté d'effacer disaient « mort aux Arabes », enfin, je veux dire, c'est quand même un appel au meurtre, et « les Arabes à Auschwitz ». Voilà, il faut quand même se rendre compte de la violence de ces inscriptions sur les murs donc des pentes de la Croix-Rousse. Alors c'est certainement une personne, hein, qui est descendue et a traversé les pentes.
Une ou plusieurs.
Voilà, mais voilà, on est quand même dans un niveau d'une violence extrême.
Donc les amis de Zemmour et de Le Pen, on espère les voir le moins possible. On vous laisse tout de suite en compagnie de la petite cuillère.
Ciao, à la semaine prochaine.